Genèveactive.ch.
À l'époque où j'ai vécu la période Khmer Rouge, tout était normal. Je pensais que le monde entier vivait dans le camp de travaux forcés. Pour moi, c'était pas le camp de travaux forcés. Il fallait dormir par terre. On n'avait pas droit à voir la famille. Ça n'existait pas. La famille, c'était l'organisation. Avec la distance, je reviens à nouveau. Je dis, mais c'est inhumain. Les adultes, ils pouvaient avoir conscience de tout ça. Mais pas nous, les enfants. Puis moi, je trouve qu'il n'y a pas plus cruel de faire ça aux enfants. Rien qu'en disant ça, je suis émue déjà.
Qu'est-ce que c'était d'être enfant sous ce régime? Comment est-ce que vous l'avez vécu?
Même tout à l'heure, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma réponse parce que j'étais très touchée que comment on pouvait faire ça aux enfants. J'ai pris conscience à ça après avoir fait des études, réfléchi. Et de plus, c'est quand je suis devenue maman moi-même et que quand je regardais ma fille qui, à mon âge, à l'époque où j'étais dans le camp de travaux forcés, j'ai dit mais... jamais je pourrais supporter de voir ma fille aller faire tout là. Et comment ma mère a pu supporter? Et c'est là où j'ai compris la douleur de ma mère, d'une mère, de toutes les mères du Cambodge. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ça y est, la phrase qu'elle m'a dit, ma fille, l'important c'est de rester vivant, travaille dur, toujours plus dur que les autres, et supporter tout le mal qu'ils te feront. Mais ta vie est très importante parce que ce genre d'injustice ne va pas durer. Comme quoi, cette phrase porte beaucoup d'espoir. Même on vit dans un massacre, dans la mort. On a toujours, étant humain, on a toujours un brin d'espoir. Et quand on a d'espoir, on a envie de sauvegarder notre vie. Je pars par rapport au titre du film, mais là je reviens à Kyesongpong. Quand je trouvais que c'est tellement cruel... J'ai compris par rapport aux guerres dans le monde, on pouvait massacrer, on pouvait supprimer le bien, je veux dire le bien matériel, on pouvait forcer les gens à travailler. Ça, je trouve ça commun déjà dans toutes les guerres, le massacre. Voilà. Il suffisait que ce soit seulement le massacre, c'est normal, c'est une guerre, c'est un régime de dictature, génocide. Mais c'est le système d'interdit à l'intérieur de la vie même. C'est-à-dire les Khmer Rouge sont allés au-delà du massacre. Ils sont allés jusqu'à déshumaniser, rendre les humains à devenir comme des fourmis. Et c'est pourquoi, dès que je suis arrivée chez Kyesongpong, ce qui représente le début de mon film, tout me revient à la mémoire, en souvenir. Tous mes souvenirs qui étaient enfouis pendant tout ce laps de temps, je veux dire entre 25 ans à 30 ans, je voulais tout oublier. C'est pas pour oublier pour ne plus reparler, c'est pour oublier pour me reconstruire, devenir solide et puis reparler un jour correctement. Quand je vois des fourmis, je dis mais nous, quand nous vivions à l'époque de Khmer Rouge, nous étions comme des fourmis. On n'avait pas d'esprit, on n'avait pas droit de penser, on n'avait pas droit à rien. Tous les jours, on était en groupe de fourmilières de gens à travailler, à construire des lits, en courant. Donc, il y a des fils indiens, la queue leu. Tout ça, ça s'est passé dans tout le Cambodge. Le pays entier était en prison.
J'aimerais quand même qu'on, même si ce n'est pas nécessairement le propos de votre film, mais qu'on revienne sur cette phrase de Kyesongpong qui dit que ceux qui me jugeront devront étudier très attentivement les 30 dernières années de ce pays. Les Khmer Rouges ne sortent pas du néant. Ce que raconte Elisabeth Becker dans Les larmes du Cambodge, histoire d'un autogénocide, c'est que le 17 avril 1975, lorsque les Khmer Rouges entrent dans Phnom Penh, ce sont des hommes que beaucoup estiment ne pas possible d'être pire que le troupe des officiers corrompus du régime de Lon Nol, le dictateur qui est en fuite.
Deux choses par rapport à mon film. Il y a d'abord la petite fille qui venait de prendre conscience au monde et puis qui découvre tout d'un coup le camp de travaux forcés Khmer Rouge, le massacre, le génocide. Et puis avec ses souvenirs, elle a pu faire plus tard, cette petite fille est devenue adulte, faire un film plus tard. Donc tout d'abord, il y a le souvenir d'enfant. Et ensuite, il y a l'adulte, la réalisatrice, la personne qui réfléchit, qui fait l'introspection de son histoire. Maintenant, je voudrais revenir au cadre Khmer Rouge. Les Khmer Rouge, au départ, ils sont formés vraiment, au départ, ils sont tous venus faire des études en Occident, en France, pendant des années 50, à l'époque où il y avait la colonisation, il y avait l'Indochine Et il y avait aussi la colonisation en Algérie. Et par rapport au mouvement de tous ces colonisés, ils se sont révoltés. Après, les idées venaient de la France quand même. Kyo Sampan, le président des Khmer Rouges, était quand même docteur en économie. Il a soutenu sa thèse à la Sorbonne à Paris. Il a passé quand même 7 ans à soutenir sa thèse à Paris et avec mention très bien. Et sa thèse parle de l'économie indépendante du Cambodge. Comment on peut être autonome économiquement au Cambodge? Et tout ceci est appliqué dans son régime. On soutenait les Khmer Rouges pourquoi? On soutenait les Khmer Rouges contre la colonisation. On soutenait l'idée des Khmer Rouges contre la guerre du Vietnam, des bombardements des Américains qui venaient bombarder le peuple du Vietnam ou du Cambodge. Et tous ces paysans cambodgiens qui sont ensuite très privilégiés sous l'époque Khmer Rouge à massacrer les gens des villes. Tous ces paysans-là, ils étaient victimes des bombardements des Américains. Qui ne soutenait pas les Khmer Rouges si on se trouvait dans la condition début des années 70? Vous et moi, vous serez pour les bombardements des Américains? La surprise, c'est quand ils sont arrivés. C'est normal que tout le peuple était tellement content. On les a accueillis avec sourire, avec des fleurs. Tout le monde secouait le drapeau blanc pour dire « ça y est, enfin, nous allons vivre en paix. Il n'y a plus de bombes ». Dans mon film, quand je parlais des bombes que je rêvais qui deviennent des fleurs, hein, c'est parce que les bombardements des Américains, c'était le matin à peine réveillé, les bombes qui s'appellent breakfast, le petit déjeuner, parce qu'il fallait bombarder au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Tous les matins, c'est un cauchemar. Là, je ne me souviens pas seulement que la période du Khmer Rouge, je me souviens tous les matins, combien de fois mon père me portait de mon lit pour aller dans les tranchées nous cacher des bombes. Donc la grande surprise, mauvaise surprise, c'est quand les Khmer Rouges sont arrivés, ils ont bien préparé. Est-ce que tous ces intellectuels qui ont étudié en France, ensuite ils sont rentrés dans le maquis pendant la période du roi Sihanouk et la période de la guerre du Vietnam, ils ont eu le temps de préparer tout ça? Qui sont ces gens des villes, la campagne, et comment ils allaient préparer tout cela une fois qu'ils ont le pouvoir? Je pense que tout cela, c'était tellement secret que tout qui les soutenait ne savait pas tout ça. Quand ils sont arrivés, le matin à 7h, à midi, l'annonce était quoi? Tout le monde devait quitter la maison, la capitale, toutes les villes, sans rien emporter. On vient chez vous, on dit, vous quittez, vous n'avez plus droit de posséder quoi que ce soit. Pour un enfant qui venait de comprendre ce que c'est la valeur matériel, ce que c'est, j'ai vu ma mère parce qu'elle était, j'ai vécu dans une famille très aisée. Puis là, j'ai compris très jeune que rien n'est plus important, n'a plus de valeur que la vie. Parce que tout ce qui est matériel, l'argent peut brûler tout d'un coup, peut perdre la valeur. Quand je parlais que les Khmer Rouges ont déshumanisé, complètement décomposé tout ce qui était l'ordre, c'est ça, la famille. La valeur, la monnaie abolie, l'école, le savoir. Et là, pourquoi je fais ce film? C'est aussi pour chercher à comprendre comment des hommes aussi intellectuels qui ont fait des études, docteur, doctorat, l'université à la Sorbonne, pour nous, on rêve de rentrer dedans, et ils suppriment déjà l'école. Les enfants à l'âge de 5 ans, 10 ans se trouvaient dans les rizières. Comment vous voulez qu'on puisse construire un pays avec l'ignorance?
Pour revenir à des images de votre film, ce sont donc images d'archives prises depuis un véhicule de Phnom Penh désert avec ce texte ou cette chanson où il est dit, je cite de mémoire, hein, « Rendez-moi ma vie ». Et en même temps, on apprend que les Khmer Rouges avaient dépouillé personne de leurs chaussures droites. Et il y avait un immeuble où il y avait les chaussures droites, un autre immeuble ou une cour d'immeuble où il y avait les chaussures gauches. Toutes les montres également, parce que quand on veut contrôler quelqu'un, mais ça on le sait très bien aussi dans les sectes ou ailleurs, on enlève tous les repères temporels qu'on a déjà, on bannit la couleur.
Alors je vais commencer par l'évacuation de la population de Phnom Penh. Là je reviens encore à nouveau par rapport au bombardement des Américains qui ont rendu la colère chez les paysans, donc les Khmer Rouges, qui étaient des leaders de ce mouvement, ils ont fait toute une campagne de résistance pour ramener tous ces paysans-là pour dire que voilà, les villes, et le fait que les Cambodgiens qui sont dans les villes participaient à la vie quotidienne tous les jours sans se soucier à aller se révolter comme les paysans, c'est-à-dire aller faire la révolution avec eux, tandis que les gens des villes continuent à aller à l'école, à aller travailler dans un bureau, à aller dans des bars, à aller au cinéma. Ils trouvaient ça comme si les gens des villes soutenaient les Américains. Je pense que vider les villes, quelque part, c'est par rapport à cette haine, le fait qu'ensuite que nous allions à la campagne, on est considérés comme des ennemis. Pourtant, on est des Cambodgiens, des Khmers, mais pas Khmers rouges. On est Khmers des villes. Tout ce qui est objet moderne, créé, la technologie, ils nous demandent de tout laisser tomber, de tout abandonner. On devait partir sans rien emporter. Ensuite, à la campagne, on n'avait pas droit de rien. Mais ce que je trouve, c'est fou. On devait travailler du matin au soir dans un champ au Cambodge qui, le soleil est tellement chaud, 50 degrés. À l'homme, il fait déjà 40. On n'avait pas droit de porter des chaussures. Vous savez que mon film est créé, est écrit quand je suis en face de Khieu Samphan pendant que j'écoute ses explications chez lui. Quand j'ai écrit, c'est pas écrit devant lui, parce qu'il supporte pas des crayons et des papiers comme les Khmer rouges. Donc j'accepte ça très bien, j'écris dans ma tête. Donc j'étais devenue très sensible quand je suis chez Khieu Samphan, même aux orages, même à des fourmis qui circulaient, qui traversaient sa chemise. Je me retrouvais avec le peuple cambodgien à l'époque sous son régime, comme des fourmis, des araignées, même la pluie. Quand je vois la pluie qui tombe, des souvenirs d'enfants, quand on regardait le ciel, quand j'avais 5 ans, 4 ans, il n'y avait que des bombes qui tombaient du ciel. Donc tout est lié, tout est venu. C'est là la force du cinéma. Du cinéma, dans son vrai terme, le cinéma capte la vérité, zoomer la vie où, là où on ne peut pas regarder avec les yeux. J'ai fait confiance à ma caméra. Quand j'ai demandé à Khieu Samphan d'accepter d'entretenir, je m'attendais déjà qu'il allait dire la même chose qu'on a toujours entendu, qu'il n'avait rien su, qu'il n'avait rien entendu, qu'il n'avait pas de pouvoir, qu'il ne faisait rien. Je m'attendais déjà à tout cela. Mais j'ai fait confiance à ma caméra parce qu'en restant avec un homme pendant longtemps, je pense qu'on peut vous mentir pendant une heure, deux heures. Il y a toujours un moment où l'être humain dégage sa vraie nature. La discussion de description sur Pol Pot au début du film, mais c'est vraiment à la fin de mon séjour qu'il a osé prononcer le nom de son ami Pol Pot. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai découvert? Ils sont amis depuis au collège. Ils ont toujours été ensemble. Il peut dire qu'il ne savait rien, mais il passe son temps à dire qu'il savait tout. Le fait qu'ils disent qu'il est avec Pol Pot depuis le collège, ensuite dans le maquis. C'est pas possible qu'on ne sait pas comment fonctionne Pol Pot. Si je laissais la caméra le filmer, qu'il s'explique pendant longtemps, c'est parce que je voudrais que le public aussi m'aide à analyser, à chercher à comprendre avec moi et à voir ce qu'il raconte.
Sur ces deux registres différents, ce qu'on voit, ce qu'on entend, il y a un moment où vous vous approchez très près de lui quand il est rasé par une autre personne. Le dernier plan de votre film est un plan avec Da alangui ou endormi, sur lequel vous insistez. Enfin, c'est un plan assez long.
Je l'ai filmé de très près. C'est pour montrer aussi qu'est-ce qu'un visage qu'on peut vous voir serein, tout ce qui peut dégager un visage, et à comparer par rapport aux actions. Donc, dans ce film, il n'y a que ça. Il y a action qui prouve le contraire de visage serein de l'homme, président d'État à l'époque Khmer Rouge, qui parle des idées tellement magnifiques. Mais le résultat, c'est quand même le début de son régime. Le peuple cambodgien était 7 millions. 3 ans, 8 mois plus tard, à la fin de son régime, il ne restait que 4 millions. Où sont les 3 autres millions? Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont enfuis peut-être. Ils ne sont pas tous morts du massacre, d'exécution, ils sont aussi morts d'épuisement, de maladie. On n'avait pas droit aux médicaments. Dès que quelqu'un qui tombe malade, il ne peut qu'espérer de perdre sa vie. Le plan de la fin de mon film, c'est le visage de Brahma, qui est Dieu créateur. Il a quatre visages, qui est le symbole, les quatre principes, qui est le symbole de la compassion, la tolérance, l'amour et la sagesse. Et c'est ce que tous les Cambodgiens essayent d'acquérir, cette sagesse. J'entends encore quand les Khmer Rouges ont amené les gens pour massacrer et quand les gens suppliaient pour qu'ils ne les massacrent pas, ils disent « S'il vous plaît, je suis un Khmer, je parle en cambodgien, je suis un Khmer qui a les quatre principes de Brahma, la compassion, la sagesse, l'amour et la tolérance. L'autre Cambodgien qui est le Khmer Rouge le massacre quand même. » Ce film, ça parle vraiment de chercher à comprendre la nature humaine.
Qu'est-ce que vous attendez de ces procès? Comment ce film s'inscrit aussi par rapport à ces procès?
Pour le peuple cambodgien, nous avons attendu ce procès depuis très très longtemps, depuis tout de suite même après les Khmer Rouges. Nous sommes tellement désespérés et les chefs Khmer Rouges, je pense, ils attendaient aussi quand est-ce qu'ils allaient être convoqués. Quand Khieu Samphan a accepté que je vienne le filmer en long et en large, il a dit lui-même que le procès va bientôt avoir lieu. Il avait peur de ne pas pouvoir être aussi en bonne santé jusqu'au jour du tribunal. Il avait aussi besoin d'expliquer en public. Je pense qu'il m'a choisi, c'est aussi pour au cas où le procès, il ne peut pas être resté vivant jusqu'au jour du procès, au moins il y a une trace quelque part. Quelque part, je trouve ça bien de la part d'un chef d'État, avec tout ce qui s'était passé, de vouloir s'exprimer, même s'il ne nous informe pas grand-chose, à part qu'il ne savait rien. Ce que j'attends de ce procès, bon, je regrette que ce soit très long, parce qu'après les Khmer Rouges, je trouve ça très choquant. Quand je suis arrivée en France dans les années 80, Khieu Samphan, qui était le chef, le représentant, est reçu ouvertement, publiquement à l'ONU. Et nous, qui sommes réfugiés et puis qui venons déjà de reconstruire notre vie, nous avons trouvé que comme quoi l'opinion internationale, déjà ils n'ont pas réagi pendant que nous étions dans la détresse. Ils ont attendu que ce soit l'armée vietnamienne qui est venue aider les participants ou les collaborateurs des Khmer Rouges au départ. Ils ont quand même mis fin au massacre. L'armée vietnamienne et les autres résistants qui étaient d'ailleurs au sein des Khmer Rouges. Hein. Et puis ils attendaient ça pour ensuite soutenir les Khmer Rouges. Et là, on ne peut pas dire autrement qu'ils ont participé au massacre. Et tout ça, c'est pour l'intérêt. Pendant les Khmer Rouges nous ont massacrés, ils n'ont aucun intérêt à venir nous aider parce que ça ne leur apporte rien. Maintenant, il peut aider les Khmer Rouges parce que l'armée vietnamienne représente quand même le bloc communiste. Il ne voulait pas que ça envahisse jusqu'à la Thaïlande. Maintenant, on part de procès à 30 ans plus tard. Il fallait faire de plus tôt. Tout ça pour traîner, pour qu'on oublie, pour que tous ces responsables soient morts. Il n'y a personne qui vient parler devant le tribunal. Et ensuite, on peut dire n'importe quoi. Les responsables, c'est qui? Il n'y a pas que les Khmer Rouges, il n'y a pas que les cinq chefs Khmer Rouges. S'il n'y a pas eu des bombardements, s'il n'y a pas eu des soutiens des pays puissants à ces Khmer Rouges, les Khmer Rouges n'existeraient pas. Et ce que j'attends de ce procès, j'attends quoi? J'attends encore une autre injustice sur l'injustice. Qu'il puisse être un procès pédagogique pour que la nouvelle génération puisse apprendre. Pour que ces périodes soient enseignées à l'école, maintenant on ne peut même pas enseigner. Parce que les responsables ne sont pas jugés, on ne peut pas les accuser qu'ils sont... Ils sont qui? Peut-être ils sont des gens très bien. Après avoir massacré tout ça, on peut encore vivre librement. Vous savez, je pense beaucoup, toujours, aux enfants. Ils ne vont plus avoir le repère. Ils vont dire, voilà, je vais faire la même chose que les Khmer Rouges. Et puis, c'est bien. On est reçu à l'ONU et ensuite on est reçu... On peut vivre librement dans la capitale.
Vous reconstituez notamment une scène dans une rizière avec des enfants qui sont en train de récolter le riz ou de le planter. Leurs larmes se mêlent dans un bol à la pluie qui tombe. Et en même temps, vous avez refusé de reconstituer des scènes d'exécution. Vous l'avez fait au travers d'un théâtre d'ombre.
J'aime beaucoup le septième art. Le septième art, qui est le cinéma, regroupe tous les arts. Et pour moi, je veux utiliser cet art pour décrire la vraie vie. À travers l'image et le son du cinéma, j'ai espéré... Je ne sais pas si je réussis, et c'est très difficile de décrire, de transmettre un souvenir, une vision d'une scène de massacre qui est tellement douloureuse, qui a tant de cris, de morts face à un enfant. Toutes ces scènes dans mon film, c'est pas du tout inventé, comme c'est un film témoignage, ce sont des scènes que j'ai vraiment vécues, les scènes du serpent. Je suis venue voir ma mère la nuit. On dormait par terre, dans la forêt. Je veux dire, on est dans un climat tropical. Les serpents étaient partout. On n'avait pas peur que des Khmers rouges, mais des serpents tous les jours. On avait appris à communiquer, à parler avec des animaux. J'ai vraiment croisé des tigres dans la forêt. Pendant le travail des enfants, je me suis retrouvée face à une tigresse avec des bébés. Ils venaient de finir une carcasse de chèvre ou de lièvre. J'avais la chance, ils avaient plus faim. Elle me regardait, j'entendais une voix derrière des enfants Khmer Rouge qui criaient « Ne cligne pas des yeux, fixe ton regard dans ses yeux. » Je n'entendais que ça, je faisais. Et puis, cette tigresse a fait venir ses bébés qui venaient même lécher mes pieds. Ils partaient. Je tiens à mettre la scène du tigre dans mon film et je racontais différemment. Pour dire comme quoi même une bête sauvage m'a épargné la vie, nous a épargné la vie, mais les humains Khmer Rouge, non. Je tiens à transmettre ce souvenir parce que moi j'ai encore vécu. Et puis la nouvelle génération, ils ne pourront jamais avoir des preuves, des traces, ce que leurs parents ont connu. La période Khmer Rouge, pour eux, c'est dur, c'est difficile, beaucoup de massacres. Mais ces termes-là ne suffisent pas. Pour moi, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ce que j'ai essayé de décrire. Et je compte beaucoup sur les moyens cinématographiques. Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de traces. Les Khmer Rouges ont tué tous les journalistes, la caméra, ils ont détruit. Les papiers, on n'avait pas droit, les stylos, on n'avait pas droit. D'abord, qu'ils en prennent charge, trouvez-moi des preuves. Comment vous voulez des preuves s'ils éliminaient toutes les preuves? Donc, nous, survivants, il fallait reconstituer les images de notre souvenir. Mais comment reconstituer une scène aussi douloureuse, aussi sanglante, même une production hollywoodienne? Peut-être pourrait le faire, mais il n'y aura pas la même douleur. J'ai pu trouver l'idée de l'origine, la jeunesse du cinéma, c'est le théâtre d'ombre. Et quand mes souvenirs d'enfant est tellement lointain et quand je dormais chez Kyu Sampon, à ma fenêtre, il y a toujours un rideau qui bougeait parce que le vent arrivait. Je voyais des âmes des morts venaient à travers ma fenêtre et j'entendais les souvenirs des massacres à l'époque revenaient. Donc j'ai l'idée de théâtre d'ombre est venue vraiment quand j'étais chez Kyu Sampon, dormir dans la chambre chez lui. Genève Active.ch